Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Lecture en tête à tête, sans langue de bois entre un témoin et une poète, dialogue à cœur ouvert, que la poésie soit prose ou vers au micro, vous écouterez. Sophie, j'ai Lucas et Thomas, j'ai Lussa. Elle naît en 1968 dans une France qui conteste, à Saint-Nazaire, disons que par rapport à nous, elle est à l'ouest. On reviendra sur les oui-dire et les non-dits, elle écrit, moi je la lis, fusion de l'âme et de l'esprit. En passant par la contre-allée, on remontera le fleuve des origines, des frères Lumière jusqu'à la société des allumés. Dans son travail, elle mêle l'intime et le documentaire, c'est la geste des ordinaires. Et dans les plis de son papier, on comprend la richesse du temps, l'importance c'est d'être fripé, pas d'être friqué, parce que nous, on est les gens. Sophie, j'ai Lucas, bienvenue à la 30e émission, justement, de Lecture en tête-à-tête, proposée par l'association Lecture en tête-à-tête. J'avais posé la même question à Sor Chalandon il y a 2 ans maintenant, à ce même micro. Pour la ligérienne que vous êtes, quel est votre rapport à la Mayenne ?
Oh là là, quelle question ! Eh bien, je vais sans doute... D'abord, bonjour. Je vais sans doute déplaire beaucoup de personnes, mais aucun rapport, en fait. Je suis ce genre de personne qui reste un peu ancrée dans sur leur territoire, et en l'occurrence, Saint-Nazaire et Nantes. Je vis sur les bords de Loire, donc on peut dire qu'il y a peut-être quand même un petit lien assez lointain. Mais sinon, non, bon, quand vous disiez que j'étais à l'ouest, mon regard tourne toujours vers l'ouest, de l'autre côté, le Canada, les États-Unis. Donc voilà, pas beaucoup de rapport avec la Mayenne, j'en suis désolée.
Justement, dans Mississippi, on voyage temporellement et spatialement, de la colonisation à l'ouragan Katrina, en passant par les chasses aux sorcières, la commune, les deux guerres mondiales. Comment, pour chacun de vos textes, vous choisissez le lieu de votre écriture ? Est-ce que ça se fait à l'échelle de l'individu, ou notamment, comme dans votre livre Nowton, à l'échelle de la ville ?
Ben, les deux sont liés, finalement. Je pars souvent d'un sujet de société. C'est souvent comme ça que les choses viennent. C'est vrai que vous évoquez Nowton, ça se passait à Détroit, donc toujours tourné vers les États-Unis. Il y a eu d'autres textes dans le milieu rural, parce que j'ai le sentiment que la géographie des espaces structure la géographie humaine, ce que nous sommes. Et voilà, donc c'est... Enfin, c'est difficile de démêler la pelote, en fait, du pourquoi, du comment. Souvent, on ne sait pas trop pourquoi ça démarre. Ça peut démarrer par une phrase, ça peut démarrer par un titre, souvent, par des bribes de mots qui sont écrits dans un carnet, et de là peut naître un texte. Il n'y a pas vraiment de règles, finalement, pour moi.
Et il y a l'espace sur lequel vous écrivez, puis il y a celui duquel vous écrivez. Pour reprendre une formule de Virginia Woolf, avez-vous une chambre à vous ?
Ah, c'est très compliqué. Quand on est auteur ou autrice, souvent on est amené à faire par exemple des résidences. On est invité dans des lieux, des fois où on sort à peine de cette chambre justement pour écrire. Donc les choses changent en fait au fur et à mesure. Autant auparavant, il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années, je pouvais écrire dans un café avec de la musique sur les oreilles, ou des fois pas du tout. Je pouvais être prise par mon texte et du coup ne pas du tout être embêtée par ce qui m'entoure, d'avoir une sorte de bulle. Et d'ailleurs, je pourrais faire un lien avec la lecture. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai un souvenir... qui me reste encore, qui m'a beaucoup marqué, d'être allée dans un café avec ma maman. Et j'avais un livre avec moi, j'avais peut-être 8-9 ans à l'époque, de lire ce texte et d'être complètement engloutie. Et à un moment, de sortir de ce texte et de plus savoir du tout où j'étais. Donc j'ai toujours eu cette capacité à m'absorber dans un livre ou dans l'écriture. Et puis au fur et à mesure, il m'a fallu un peu plus de conditions un peu plus confortables, c'est peut-être avec l'âge. Donc j'ai mon endroit, je trouve que l'endroit idéal pour écrire, c'est la cuisine. J'adore écrire dans une cuisine, voir passer voilà, les amis, et d'être à une table et d'être voilà, dans la lumière souvent. Et puis maintenant, j'ai beaucoup de chance, je suis sur une petite table et face à la Loire. Et c'est l'endroit où j'écris la plupart du temps, voilà, dans un appartement tout petit. et ça me convient, c'est plutôt pas mal, ouais.
Et pour filer justement la métaphore culinaire, avez-vous des recettes qui reviennent de livre en livre justement pour les écrire ces derniers ?
Ah, je dirais plutôt des rituels d'écriture peut-être. Il y a le fait d'avoir quelque chose qui vient, ça dure un petit moment, on tourne autour du sujet et puis aussi, enfin moi je ne m'y mets pas tout de suite, je mets un temps fou en fait, c'est comme si je tournais comme une chèvre avec son attachée à un piquet. Et j'essaye de tout faire pour ne pas aller à la tâche. Donc je procrastine, je lis, je n'écris pas. Et puis à un moment, je tourne autour de ce piquet et plus je m'en rapproche et je m'y mets enfin. Mais ça me prend un temps incroyable. Donc ça, c'est vraiment une sorte de rituel. Et ça, je l'ai découvert avec le temps, en fait, hein, les choses qui revenaient. Et sinon, toujours des carnets d'écriture que je traîne toujours avec moi au moment où j'écris un texte, au moment où ça me prend. Parce que finalement, j'écris assez peu. J'écris un texte tous les 2-3 ans, c'est pas énorme, hein, je pense, par rapport à des camarades que j'ai envie tellement de pouvoir écrire un texte tous les ans quasiment, ou d'avoir toujours des choses à écrire. J'ai juste un rituel d'écriture qui m'accompagne depuis l'âge de 15 ans, je crois que c'est un journal. Donc qui se transforme en une sorte de laboratoire avec soit des choses que je mets à plat sur ce que je vis, sur ce que je ressens, et puis soit des travaux d'écriture, de phrases, de voilà, ce sont des rituels, je sais pas, c'est des recettes, j'aimerais bien avoir des recettes.
Et justement, d'après cette production-là, vous avez écrit et publié des dizaines de textes poétiques quand même. Comment le passage à l'écriture du roman s'est-il opéré avec Mississippi, justement La Geste des Ordinaires, publié aux éditions de la Contre-Allée en 2023 ?
J'ai l'impression que c'est... comment dire ? Ça reste un point de discussion entre moi et moi, c'est-à-dire que, et avec mon éditeur, je ne sais pas si Mississippi est un roman, en fait. C'est un roman, mais j'ai du mal à mettre... En fait, j'ai dit, quand j'ai accompagné ce livre, quand il est sorti l'an dernier, que je crois que je ne me suis jamais sentie aussi poète qu'en écrivant Mississippi, alors que c'est voilà, un roman, parce qu'il y a toute cette trame narrative, des chapitres, on le lit comme un roman, je pense. Mais moi, dans l'écriture, c'était quelque chose d'assez... C'est comme un long poème, finalement. C'est plutôt de la poésie. Et par contre, mes autres textes poétiques, j'ai toujours eu du mal à les considérer comme de la poésie. Je les vois comme peut-être de la poésie narrative, ou je vais dire des textes. Donc c'est très compliqué pour moi. Je n'arrive pas à me situer soit en poète, soit en romancière. J'écris, en fait. Voilà, j'évite les étiquettes.
C'est assez drôle parce qu'en bas de ma feuille, j'avais justement indiqué que je ne sais pas si c'est un roman en l'occurrence. Donc là, vous y répondez. On va quand même l'appeler, ce texte-là, Mississippi, sans forcément lui donner d'étiquette. En tout cas, ce texte-là se structure en 4 parties, intitulées de la manière suivante. Nous désirons le monde, nous désirons la guerre, nous désirons sans fin, nous désirons disparaître. Est-ce le désir qui module justement vos affects et dicte votre mouvement d'écriture ?
Oui, très certainement. Je pense que sinon je ne le ferais pas. Le désir, oui, d'écrire, parce que c'est vraiment très, très... l'écriture et le désir, ce sont vraiment deux choses très, très liées. Je pense que quand il y a eu des moments dans mon existence où j'ai eu des moments, on va dire, dépressifs, où le désir de s'échappe en quelque sorte, et donc l'écriture n'est pas du tout à l'ordre du jour. J'ai eu des épreuves personnelles compliquées et c'est pareil, le désir d'écrire n'était pas là. Par contre, le désir de lire, oui. Si j'avais un choix à faire, je pense que ce serait la lecture plutôt que l'écriture, d'ailleurs. Je ne pourrais pas me passer de la lecture du tout. De l'écriture, je pense que oui. C'est des choses que j'ai découvertes assez récemment. Et la question, c'était par rapport au désir. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu, je pense. Ouais.
Et ben justement, je vais vous demander de conjuguer ces deux activités de lecture relative à justement l'écriture de Mississippi, La Geste des Ordinaires, avec un extrait de votre roman.
Alors j'ai choisi le tout début, finalement. Ça pose un petit peu les choses par rapport au texte. 1839. À quoi ça ressemble un homme du 19e siècle ? Comment ça bouge dans son corps ? Comment ça épouse le paysage ? Comment il s'arrange, ce paysan, de ses sabots, de son chapeau large bord, de ses vêtements raidis par l'épaisseur des tissus et de la crasse ? Et celui-là, debout, chapeau à la main, colère rentrée. Non, pas de colère, pas encore. D'abord, de l'incompréhension, du désarroi. Impatient, c'est son prénom, et désarmé sur le moment. Impatient a le corps debout, mais immobile dans la moitié du paysage. Parce qu'à cet instant, une partie de son corps est dans la pièce et l'autre sur le pas de la porte, dehors. Quelque chose comme ça qui se dessine dans le paysage, un homme à demi, où que l'on se place, dehors ou dedans, et comment s'étonner dès lors que la ville porte le nom d'Ormois. Impatient n'a le souffle coupé. Du proche paysage, il ne voit plus rien, juste un flot de lumière. Pied dehors, pied dedans, le contre-jour, mais qu'importe cette sorte d'aveuglement, il ne voit pas clair de sa vie qui lui échappe là, en une fraction de seconde, devant l'homme derrière le bureau de la maison commune, Julien Henriot. Et Julien Henriot a dit « Je ne te vois pas ». Et impatient était bel et bien là. Mais Julien Henriot a dit « Non ». Non, impatient, tu n'existes pas. C'est ce qu'entend alors impatient, tu n'existes pas. Je ne te vois pas, c'est ce que prononce exactement Julien Henriot, ce sont ces mots. Alors impatient a marché vers la sortie, juste prendre l'air et le feu du dehors, s'animer, animer le corps et surtout s'éloigner de la langue fourchue de Julien Henriot, de la bouche qui lit à voix haute les mots que lui, impatient, lit à peine. Mais Julien Henriot a tourné les pages et n'a pas lu ce qu'impatient attendait. Impatient Lansard, né le 19 septembre 1808 à Ormois. Bel et bien là pourtant. Un paysan, un homme, debout. Il est né en ce pays, impatient, il le sait, il l'a porté en lui-même, loin. Ses plaines par cœur, ses forêts jusqu'à la gueule. Comment il tient impatient dans ce paysage? Par la résistance. Il a résisté à ce pays, à sa famille. Il a résisté aux vignes, aux plaines, aux forêts, à la rivière, à la grand-rue, mais impatient et revenu. Et à présent, c'est tout le pays qui lui résiste, qui ne cède pas à sa demande d'homme, exister ici.
Merci. Donc là, nous venons justement d'entendre une voix dans votre livre. Il y en a plusieurs avec... différentes utilisations de la ponctuation, des styles d'élocution variés, diverses époques, le format épistolaire, l'adresse via le « tu ». Pourquoi ce choix kaléidoscopique, ce choix de la variation de la pluralité?
C'est le texte qu'il a commandé ainsi, j'allais dire. C'est traversé, il est question du Mississippi, c'est un fleuve, c'est une sorte de métaphore de l'existence qui peut parfois être très agitée, parfois très calme, qui a parfois ses méandres, ses rivières, ses ruisseaux qui partent du fleuve. Et le texte, je pense, est à l'image d'un fleuve. Donc j'ai essayé d'épouser les différents personnages. Donc pour impatient, c'est venu comme quelque chose qui est très lié à la nature. C'est pour moi le personnage romantique. Et donc il fallait toutes ces phrases un peu longues, ces passages un peu longs, avec cette ponctuation particulière, avec tout ce travail de la parenthèse qui permet d'avoir une sorte de voix off et qui permet aussi de donner un petit peu d'épaisseur à sa vie, au texte. Parfois c'est le « tu », quand c'est une adresse à Antoine Lumière. Parfois c'est le « je ». À la première personne pour certains personnages, le « il » ou le « elle ». C'est vraiment le personnage qui le commandait. Et puis, il y avait cette énergie qui, moi, me portait pendant toute l'écriture du texte. Et ça m'a emporté en fait, dans la mesure où je voulais pas quelque chose qui soit trop statique pour raconter toutes ces vies qui se succèdent.
Donc justement, je vous propose d'écouter une autre voix, celle du groupe Chic, qui interprète Good Times, votre premier choix musical. Sophie Gélica, pourquoi ce choix musical ?
Pour l'amour du contraste, on était au 19e juste avant et on passe à Chic. En fait, il y a un des personnages, Rebecca, qui intervient dans le texte de Mississippi et qui danse. Le chapitre, c'est uniquement elle qui est en train de danser. Et cette chanson représente pour elle quelque chose de l'ordre de la liberté, de la libération par rapport à son histoire. Et je voulais un titre dansant parce que dans Mississippi, il est beaucoup question de danse, finalement. Par exemple, on a un patient qui se retrouve sur le bord du Mississippi et qui se met à danser à un moment. Il est observé par un cheval. La danse revient avec le carnaval des blanchisseuses dans Paris. Donc il y a le personnage de Rebecca. Il y a également la danse à la fin en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, et la danse au rythme comme ça. Et c'est... Enfin, moi, j'adore danser. Je suis fascinée par la danse, qu'elle soit contemporaine ou classique. Et il y a une sorte de langage universel. Ça réunit tout le monde, en fait. On peut ne pas savoir se parler, mais on peut danser. Et puis, il y a ce rapport au corps qui permet de transcender un certain nombre de choses et qui inscrit le corps aussi dans l'espace. Enfin, il y a vraiment mille choses autour de la danse. Enfin, c'est voilà pourquoi j'ai choisi Chic.
Et j'ai découvert justement que c'était l'une des chansons les plus samplées de l'histoire de la musique, notamment dans le domaine du hip-hop, par I.A.M., Michael Jackson, etc. Est-ce que le sample, c'est une pratique d'écrivain ou d'écrivaine, dans votre cas ?
Alors, qu'est-ce que vous entendez par sample, en fait ?
C'est-à-dire reprendre des morceaux musicaux, les retravailler à sa manière et les interpréter aussi soi-même.
Ah oui, on pourrait, avec l'écriture, reprendre des textes de classiques et de les remixer à notre sauce. Mais non, en tous les cas, moi, je ne pratique pas le sample, non. Non. Mais par contre, j'utilise beaucoup le rythme dans mon écriture. Et c'est une écriture qui peut être oralisée. Donc je fais des lectures comme ça à voix nue ou alors à voix accompagnée avec un musicien ou une musicienne. Et c'est quelque chose que j'adore. Ça donne une autre vie au texte. Et je trouve d'ailleurs que tous les textes, on devrait pouvoir les lire à voix haute tout le temps. Enfin, on les entend tellement de manières différentes. Et on entend la voix du poète ou de la poétesse ou de l'écrivain, de l'écrivaine. Enfin, c'est un espace, je trouve, absolument extraordinaire. Ouais.
Ce que j'entendais aussi par la pratique du sample pris justement par le prisme de lecture de l'écriture, est-ce que vous êtes influencé par d'autres textes au moment justement de l'écriture ?
Alors certainement que oui, je m'en rends pas vraiment compte. Je pense que j'ai eu des influences comme ça. Et quand je relis certains textes, je me dis oh là là, t'as un petit peu trop lu Raymond Carver à un moment donné. Donc ça revient un peu dans l'écriture, mais on est nourri de tout ça forcément. Et mais pas seulement. Il y a la littérature, mais on est nourri voilà justement de musique. Moi, je me sens nourri de ça, de culture populaire. Et ça fait une espèce de marmite de cinéma aussi. Le cinéma, pour moi, est très présent dans l'écriture de Mississippi ou même dans mon écriture de manière générale. C'est assez imagé.
Justement, dans votre livre, on suit une lignée qui mène jusqu'à Antoine Lumière et ses deux fils, plus connus sous le nom des frères Lumière, inventeurs du cinématographe. Étant moi-même critique de cinéma, je dois bien avouer que j'ai pris un grand plaisir justement à plonger dans ces lignes-là à ce moment-là. Pourquoi avoir tiré ce fil ? Êtes-vous une descendante éclairée des frères Lumière ?
Éclairée, je ne sais pas, mais oui, une petite lumière. En fait, j'ai... Complètement par hasard, en fait, j'ai fait mon arbre généalogique il y a plusieurs années et parce qu'il y avait pas mal de trous, de manques dans cet arbre. Et j'étais partie sur la lignée de ma grand-mère maternelle. Et en remontant sa lignée, j'ai constaté qu'en fait, nous avons une aïeule directe qui s'appelle Françoise Lumière et qui était la grande sœur de Claude-Antoine Lumière. Donc la tante, si je me suis bien, la tante des frères Lumière. Et c'était quelque chose d'assez, pour moi, c'est extraordinaire, qui suis fan de cinéma. Ma jeune sœur travaille dans le cinéma d'animation, donc c'était un truc assez fou. Et voilà, en fait, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait de ce personnage. Je l'ai inscrit dans l'écriture, mais j'en ai pas fait quelqu'un de plus extraordinaire que tous les autres qui sont ouvriers ou paysans. Mais son histoire est assez incroyable, finalement. Il a réussi à s'extirper de son histoire quand même assez difficile et à se construire lui-même. Alors, sans doute qu'il était, aujourd'hui, on dirait HPI, mais c'est un génie, en fait. Hein, ouais.
Et justement, vous, dans votre processus d'écriture, est-ce que la visualisation est quelque chose de très important ? Je sais que certains auteurs peuvent partir justement d'images, d'un rapport très visuel à la chose pour la retranscrire au sein de leur écriture.
Oui, je pense que je suis plus de l'image, que je ne psychologise pas du tout les personnages, par exemple. Je me sens toujours un peu en extérieur. Et les scènes, je les vois en fait, hein, les scènes des personnages, et je les décris. J'ai beaucoup ce truc de description, mais... ça peut être par petites touches ou par des mots, enfin sans trop, j'espère sans trop en faire non plus, sans trop faire des descriptions qui soient trop descriptives justement. Donc non, c'est vraiment très très imagé. Ouais.
Il y a un élément qui revient de manière récurrente justement dans votre livre, c'est la mémoire, qui d'ailleurs j'aime beaucoup, n'est pas une matière éthérée chez vous, elle s'incarne quasiment physiquement, et tout semble passer par le corps. Et je vous cite, « Elle n'avait pas entendu parler d'Antoine Lumière ni d'Alexis Lansard, rien ne la rattachait à eux, ni le nom, ni la mémoire, mais le corps. Le corps savait. » Nietzsche écrivait justement que le corps est en avance sur la pensée. Est-ce que vous partageriez ce constat ? Et pourquoi avoir fait du corps un élément transversal des époques ?
Parce que la mémoire, en fait, je pense que dans toutes les familles, on le voit, ne se transmet pas forcément par les mots. Il y a des milieux où on ne se parle pas, mais des choses se disent autrement. Et moi, il y a des choses qui m'ont toujours fascinée dans la question du corps. C'est par exemple retrouver des gestes d'une arrière-grand-mère sur son arrière-petit-fils, et je l'ai vu, ou son arrière-petite-fille, dans la manière d'être. Et ça, c'est quelque chose qui se transmet par le corps, mais pas de manière consciente. Et pour qui s'est intéressé, par exemple, à la psychogénéalogie, on constate, oui, qu'il y a des choses qui traversent les âges, qu'on ne peut pas forcément expliquer et qui se transmettent de cette manière. Et on peut transmettre des maladies, on peut... Enfin, il y a tout... Il y a tout un pont de cette mémoire, en fait, qu'on ne maîtrise pas, mais qui est là.
Dans cette mémoire du corps, justement, je terminerai par deux questions... frontale, mais qu'il ne faut pas prendre de manière agressive, justement, que j'ai puisé directement par des citations de Mississippi. Avez-vous la tête de votre époque, Sophie Gelucca ?
La tête de l'époque, de mon époque ? Alors ça, je ne saurais pas du tout vous dire.
C'est une citation qui revient dans votre livre.
Mais je suis sans doute le produit de mon époque, très certainement, et pas seulement, donc de mon histoire et de mon époque. Mais je dirais peut-être que je me sentirais plutôt décalée, hein. Par rapport à mon époque.
C'est le côté ouest, Saint-Nazaire. Et vous terminez justement votre roman avec cette phrase. Comment ça tient debout, proche de l'effondrement ? Comment tenez-vous ?
Difficilement, très difficilement. Et je pense que je ne suis pas la seule, voilà, parce que j'ai une vision assez pessimiste en fait, de l'époque dans laquelle on est. Alors, même si je trouve plein de joie, et même si dans Mississippi, je crois que j'ai mis beaucoup de... d'énergie, de joie dans ces efforts d'émancipation de tous ces personnages, mais aujourd'hui, non, je suis plutôt très pessimiste, donc c'est compliqué de tenir debout et de tenir la barre. Ouais.
Bon, c'est compliqué de terminer avec cette note pessimiste-là, mais je pense qu'on va la garder, et je vous propose justement d'écouter votre dernier extrait musical, La mémoire neuve de Dominique A.
Ma mémoire m'a déserté. Enfin, je vais profiter de tout sans rien. N'en regretter. Affranchi le lendemain du souvenir, fatalement ça n'a pas duré. la mémoire m'est revenue. Mais j'ai eu l'intuition que ça n'était pas la mienne que je retrouvais. À mesure que me gagnait quelques souvenirs, je doutais qu'il m'ait un jour appartenu. Eux qui défilaient sans parler, mais comme ils pesaient moins que rien, et que cette mémoire n'avait nulle trace de jour fat. Tout mauvais, à merveille, elle me conviendrait. Moi qui l'a à moi, je crus qu'elle saurait m'épargner. Les rancœurs et le vin mauvais, et aujourd'hui j'accuse. Encore le coup, elle m'a bien nu. Elle m'a bien sûr depuis tout dévoilé. Du passé lourd qui m'incombait. Ma vraie mémoire reparaîtrait. Elle rirait bien fort de moi. L'autre en tout cas bien arrimé. Parraine chacun de mes pas, et je ne me reconnais pas. Le dos courbe et les yeux baissés, ses yeux qui balaient le plancher. Sans doute pour la première fois,
merci beaucoup, Sophie Gelluca, pour cet échange passionnant qui restera certainement dans nos mémoires, du moins dans la mienne. Je lis justement dans le sourire de vos yeux un peu d'espoir, et j'espère égoïstement que d'autres livres, en tout cas, suivront celui-ci.
Merci beaucoup, Thomas. C'était un vrai plaisir.